Salutations, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne, on y va sans plus tarder. L'affaire du jour nous emmène dans l'état de Washington, au nord-ouest des États-Unis. Un état connu pour ses parcs nationaux, ses sentiers de randonnée panoramiques et ses montagnes volcaniques. Plus de la moitié du territoire est composé de forêts de pins, c'est le décor parfait pour fêter l'arrivée de l'automne. On connaît quelques villes de l'état, Olympia, sa capitale, Seattle, hashtag Grey's Anatomy, Forks, qu'on connaît de la saga Twilight, ou encore Lakewood, dont on a parlé récemment dans l'affaire Skylar Nemeth. Pour notre affaire d'aujourd'hui, on se rend cette fois dans la ville de Lacey, une ville de la banlieue d'Olympia, dans le comté de Thurston. Lacey, c'est une ville d'environ 58 500 habitants. Elle fait partie des 7 villes les plus vertes des États-Unis. Elle est surnommée Tree City USA, puisqu'en effet, presque un quart de la ville est constituée de parcs et autres espaces naturels. Ces nombreux parcs et lacs permettent d'ailleurs aux habitants de profiter du grand air et de toute forme d'activité qu'il permet, randonnée, pêche, pique-nique, etc. Mais toute cette nature, c'est aussi une aubaine pour les personnes mal intentionnées. Lacey a un taux de criminalité plus élevé que la moyenne des États-Unis, avec 34 crimes pour 1000 habitants. Les forêts alentour semblent être le paradis pour les criminels, idéal pour cacher leurs méfaits ou pour enterrer leurs victimes mortes ou vivantes. Le dimanche 16 octobre 2022, il fait beau et encore doux pour la saison. La ville de Lacey profite ce jour-là d'un délicat soleil d'automne. Au 380 de la rue Rosberg, Yong Suk Han, une femme de 42 ans et ses enfants, Crystal, 21 ans, et J.A., 11 ans, montent en voiture pour aller à la messe comme tous les dimanches. La famille est installée depuis 4 ans dans le quartier. Le père des enfants, Che Kyung Han, ne vit plus à la maison depuis quelques mois. Kyung Han est un vétéran des forces armées américaines. Il travaille alors pour l'intelligence militaire et il voyage beaucoup. Il a à son actif plus de 30 ans de service. Il a obtenu plusieurs décorations, mais ses nombreux déploiements lui laissent des traces, des blessures et des maladies qui lui valent un taux d'invalidité à 100%. Il touche une pension d'invalidité du ministère des anciens combattants et il n'a plus besoin de travailler. Alors, de toute façon, il ne peut plus. Mais Kyung-han, il a aussi des problèmes de colère. Il lui arrive d'être violent. C'est pour cette raison qu'en 2021, une mesure d'éloignement est demandée par Suk-han. En 2022, elle initie une procédure de divorce. La mesure d'éloignement finira par être annulée pour que Kyung-han puisse continuer à voir ses enfants et à côtoyer sa future ex-femme. En octobre 2022, il ne réside plus dans la maison familiale. On ne sait pas trop où il vit, mais on sait qu'il revient tous les dimanches passer un peu de temps avec ses enfants et faire ses lessives par la même occasion. Ce dimanche-là ne fait pas exception, et quand Suk-han et les enfants rentrent de l'église, ils remarquent le minivan de leur père, une Dodge Caravan, année 2006, garée devant l'allée de la maison. Kyung-han est là, et ça tombe bien, sa femme veut parler divorce, et plus précisément, elle veut parler séparation de biens et d'argent. Pas fun, mais nécessaire, surtout avec des enfants à charge. Suk-han demande à Crystal et J.A. d'aller en ville après la messe pour qu'elle puisse parler avec papa, seule à seule. Suk-han gare sa Prius dans l'allée et tout le monde descend. Crystal entre dans la maison pour prendre les clés de sa voiture à elle. Elle n'aperçoit pas son père, tant pis, elle le verra en rentrant. Elle monte ensuite dans sa voiture avec son petit frère et les deux se mettent en route. Ils quittent la maison vers 12h30, direction les magasins pour faire un peu les boutiques. Ils vont ensuite chez Baskin & Robbins pour acheter une glace et un milkshake. Quelques minutes avant 13h, le 911 reçoit un appel. Il est émis depuis une Apple Watch. Alors on a tous vu les publicités pour l'Apple Watch qui montrent comment elle peut nous sauver en appelant toute seule les secours après un accident de voiture, par exemple une chute ou autre. Même si elle est souvent utilisée pour autre chose comme le calcul du nombre de pas, l'heure, la date, la météo et activités sportives en tout genre, elle l'est très rarement pour des urgences. Dans notre affaire, l'Apple Watch en question lance donc un appel et le dispatcher répond 911. Quelle est votre urgence? Et la réponse de l'interlocuteur lui glace le sang.
911, what are you reporting? Hello? What's going on there? Okay, I'm going to get help started to you. Hold on for me for just a second. Do you know the address that you're at? If I said it?
Comme tu peux l'entendre, la voix est étouffée, comme si la bouche de laquelle elle sort est recouverte d'une main ou d'un bâillon peut-être. On ne comprend pas ce que dit cette personne, mais une chose est sûre, c'est un appel à l'aide. On dirait la voix d'une femme, sa respiration est saccadée, on croit l'entendre dire « help, help, à l'aide, à l'aide ». La personne au dispatch essaie de comprendre quelle est l'urgence, mais elle voit bien qu'il s'agit d'une situation extrême. Elle rassure son interlocutrice, elle envoie une équipe sans tarder et elle reste en ligne en attendant que ses collègues arrivent. La La femme crie encore, puis elle se met à pleurer. L'appel entier est vraiment terrible à entendre. À un moment donné, on comprend que la femme en détresse a dû changer de pièce, puisque d'un coup, l'acoustique est très différente, sa voix résonne, comme si elle était dans un garage. Ensuite, on entend un bruit mécanique, comme un volet roulant qui s'ouvre ou qui se ferme. Et la voix de la femme se fait de moins en moins forte, elle semble s'éloigner. On entend aussi un chien qui aboie, et puis plus rien. L'interlocutrice du 911 lui dit « Allô, madame ?» mais il n'y a plus rien, plus un son. Le temps de l'échange, au total environ 15 minutes, permet à ce que le lieu de l'appel puisse être tracé grâce aux antennes relais. Une équipe de police y est envoyée de toute urgence. Ils n'ont aucune idée de ce sur quoi ils vont tomber. Le motif de la demande d'intervention est « problème non identifié ». L'équipe arrive très vite sur place, à peine quelques minutes après la notification de la demande. Et quand ils arrivent, la maison est silencieuse. Seul le chien aboie encore et encore. La porte du garage est grande ouverte et il n'y a pas de voiture garée à l'intérieur. Plus étonnant encore, la porte qui mène du garage à l'intérieur de la maison, elle, est aussi grande ouverte. L'Apple Watch de laquelle est émis l'appel au 911 est là, par terre, dans le garage, l'écran est totalement explosé. Elle est toujours connectée au 911 et dans l'enregistrement, on entend d'ailleurs les policiers arriver. Les policiers arrivent, mais impossible de retrouver la personne qui a émis l'appel. Il n'y a personne sur place. La femme qui émet cet appel d'urgence, c'est bien sûr Suk Ann. Et ce n'est pas la première fois que la police intervient chez elle. En août 2021, Kyung Ann est arrêté pour violence conjugale. Il frappe Suk Ann et il lui cache son téléphone. Si on veut connaître l'histoire plus en détail, la voici. Suk Ann fait la rencontre d'un homme avec lequel elle va faire un écart. Quand elle le dit à son mari, bien sûr, il est furieux. Il exige d'elle qu'elle lui écrive une lettre d'excuses si elle veut qu'ils travaillent ensemble sur leur couple. Et elle va le faire. Mais ce n'est pas là que ça explose. Des mois plus tard, le couple est au bord de la rupture. Kyung Ann change alors les accès de son compte en banque, mais aussi ceux du compte joint du couple. Quand Suk Ann s'en rend compte, elle change aussi les accès de son compte personnel, de peur que son mari ne prenne son argent. En sentant le divorce approcher, Suk Ann récupère la lettre d'excuse qu'elle a écrite à Kyung Ann il y a des mois. Cette lettre, c'est une confession écrite de son adultère, et dans un contexte de divorce, c'est une arme entre les mains de son mari. Mais le soir du 28 août 2021, Kyung Ann est enragée. Suk Ann est sortie, et quand elle rentre après minuit, elle va se coucher dans la chambre du couple. Ils sont en voie de séparation, donc ils font chambre à part. Dans la chambre d'amis qui est la sienne, Kyung Ann ne dort toujours pas. Il est furieux, il voit que la lettre a disparu et il réalise aussi qu'il n'a plus accès au compte bancaire de Suk Ann. Il décide de se lever et de la confronter. Il va dans sa chambre, une dispute commence, le ton monte. Kyung Ann prend le portable de sa femme et lui dit qu'il ne lui rendra que si elle rend la lettre. Mais Suk Ann ne veut pas. Kyung Ann cache le téléphone dans sa chambre à lui et quand Suk Ann entre dans la pièce pour le récupérer, c'est là qu'arrive le geste de trop. Kyung Ann attrape sa femme par le bras, il la tire, il la pousse, il la jette au sol. Terrorisée, Suk Ann court dans la chambre de cristal et depuis le téléphone de sa fille, elle appelle le 911. En ligne avec le dispatch, elle chuchote qu'elle a besoin d'aide. Quand la police arrive, Suk Ann est dans tous ses états, elle est réellement terrifiée. Elle parvient à peine à expliquer ce qu'il vient de se passer. Kyung Ann est arrêtée à 4h30 du matin et une mesure d'éloignement est demandée par sa femme. Et ensuite, elle demande le divorce l'année suivante, soit en 2022. Et ça nous amène à ce dimanche 16 octobre 2022. Crystal et son petit frère arrivent à la maison un peu après l'arrivée des enquêteurs et les enfants racontent qu'ils sont allés en ville pour laisser leurs parents discuter entre adultes. Ils sont partis environ 30 minutes seulement. Crystal indique que seuls ses parents et elle-même ont une clé de la maison et là, Crystal remarque un message sur son portable. Alors qu'elle conduit sur le chemin du retour, elle reçoit un SMS qu'elle ne voit pas tout de suite puisqu'elle est au volant, donc tout à son honneur, elle conduit sans regarder son portable. Mais ce SMS, c'est un message d'urgence envoyé depuis le portable de sa mère, ou plutôt depuis son Apple Watch. L'Apple Watch a détecté une chute brutale et le SMS dit « SOS urgence, maman a appelé les services d'urgence depuis cette localisation après que son Apple Watch a détecté une chute violente. Vous recevez ce message parce que maman vous a désigné comme contact d'urgence. » À la suite du message, il y a un plan, c'est la localisation de l'urgence, la maison familiale. La meilleure amie de Soukane rejoint les enquêteurs et les enfants à la maison. Elle aussi a reçu le même message que Crystal, puisqu'elle aussi est désignée comme contact d'urgence dans le portable de Soukane. Elle rapplique après avoir reçu le message d'urgence pour vérifier comment va son amie. Elle est au courant que cette dernière subit des violences conjugales. Elle rapporte des menaces que son mari a faites. « Si je dois tomber, je ne tomberai pas seule. » Alors on dirait qu'il a tout prévu de tomber et de l'entraîner avec lui dans sa chute. À l'arrivée des policiers, le minivan de Kyung-an n'est plus là, la voiture de Soukane non plus, ni dans l'allée, ni dans le garage. Elle est retrouvée plus tard, à quelques rues de là, garée devant la voie Wardell au numéro 73726. De retour à la maison familiale, on constate qu'elle est sans dessus dessous, comme s'il y avait eu une lutte, une bagarre. Le téléphone de Soukane est retrouvé sur place, mais comme pour sa montre, l'écran est explosé. Et plus inquiétant encore, des morceaux de scotch sont découverts, des cheveux correspondant à ceux de Soukane sont collés dessus. La police réagit très vite. On récupère les témoignages des enfants, de l'ami, de Soukane et des voisins ou des passants, si jamais il y a eu un témoin de la scène. Les vidéos des caméras de surveillance du quartier sont aussi saisies et analysées dans la foulée. Et ce qu'elles montrent est terrifiant. Une des vidéos, prise depuis la maison située en face de celle de Soukane et de ses enfants, montre un homme en t-shirt blanc qui ouvre la porte du garage pour y faire entrer un minivan, puis on le voit refermer la porte derrière lui. Il s'agit du minivan de Kyung-an, et Crystal reconnaît son père sur ces images. Quelques minutes plus tard, le minivan est vu par une autre caméra roulant à vive allure et s'éloignant du domicile familial. Une autre caméra montre le minivan passer à côté de la voiture de police qui est en route pour intervenir à la maison. D'autres caméras montrent le minivan s'éloigner de plus en plus et quitter le quartier, quitter la ville. Dans l'heure, un avis de recherche est émis pour Yong Suk-an et Che Kyung-an, la victime et le kidnappeur présumé. L'avis de recherche est envoyé par SMS, transmis sur les réseaux sociaux et les enquêteurs demandent à la population d'ouvrir l'œil et de les prévenir si Soukane ou Kyung-an ou son minivan sont aperçus. Mais ils reçoivent très très peu de réponses. La nuit tombe et toujours pas de nouvelles de Soukane. La famille et la police craignent le pire. Pendant que tout ce beau monde s'active autour de la maison, Kyung-an, au volant de son minivan, roule. Il roule, il continue de rouler, il quitte la rue, puis le quartier, puis la ville. Il s'enfonce dans la forêt alentour. Il n'écoute pas les supplications de Soukane, ligoté et bâillonné dans le coffre de son minivan, qui l'implore d'arrêter. Il n'écoute pas, il continue de rouler, et après de longues minutes de route sinueuse, il s'arrête, il descend de la voiture, il en fait le tour et il ouvre le coffre. Il attrape Soukane, il la sort de la voiture, il la traîne dans la forêt, le froid et l'humidité. Et au bout de quelques mètres, Kyung-an s'arrête et il lâche Soukane par terre. Il retourne à sa voiture chercher quelque chose et il revient vers elle. Et puis il se met à creuser la terre. Il creuse une tombe de fortune dans laquelle il compte enterrer Soukane. Après quelques dizaines de minutes, il semble satisfait de son trou, il jette sa pelle et il attrape Soukane, il la poignarde à plusieurs reprises, il la pousse au fond du trou et il lui dit qu'elle va mourir. Il ramasse sa pelle et il recouvre sa femme de terre. Elle hurle, elle supplie, mais elle est toujours bâillonnée, blessée puisqu'elle a été poignardée, elle ne peut pas articuler, elle ne peut que crier. Et de toute façon, Kyung-an ne l'écoute pas, il l'enterre vivante. Et quand il termine, il dépose un gros tronc d'arbre sur cette tombe de fortune. Du côté de l'enquête, la police ne sait pas où chercher. Elle n'a pas d'indice tangible à suivre. Les policiers continuent d'étudier les images des caméras de surveillance. Ils cherchent où le minivan se rend après avoir quitté le quartier résidentiel pour savoir dans quelle direction chercher. Vers 1h du matin, cette nuit-là, le département du shérif du comté de Thurston reçoit un appel. Il vient des résidents d'une maison à environ 10 km de là, au 9900 de la route Stedman. Une personne se cache dans leur garage, il faut que des policiers soient envoyés et vite. Une équipe arrive en urgence et en cherchant dans le garage, ils tombent sur Soukane. Elle est couverte de terre et très agitée, mais elle est vivante. En voyant les policiers, elle court vers eux, elle s'accroche au bras de l'un d'entre eux et elle lui dit « Mon mari essaie de me tuer, s'il vous plaît, aidez-moi ». La pauvre femme est dans tous ses états, elle a du mal à parler et surtout à respirer. Elle a encore du scotch autour du cou, sur le bas du visage et aux chevilles. Ce sont les policiers eux-mêmes qui le découpent et la débarrassent enfin de son bâillon. Elle a de nombreux ecchymoses sur les bras, sur les jambes et sur le visage. Sa peau et ses vêtements sont souillés, tachés de terre humide et de sang. Elle a été poignardée plusieurs fois au au niveau de la poitrine et enterrée vivante, avec l'espoir sûrement qu'elle succombe à ses blessures ou par asphyxie. Traumatisée, Sukan est installée à l'arrière de la voiture de police. Elle est en hypervigilance. Ses yeux écarquillés regardent de tous les côtés comme si elle s'attendait à voir débarquer son mari d'une minute à l'autre. Elle dit au policier que son mari, Kyung-han, est encore dehors. Il est quelque part dans les bois. Sokan est envoyée à l'hôpital pour être prise en charge d'urgence. Quand elle est retrouvée dans la grange, elle a du mal à se souvenir de la chronologie des événements. Elle est en état de choc et elle est blessée. Heureusement, les coups de couteau qu'elle a reçus à la poitrine ne touchent aucun organe vital. Elle va se remettre de ses blessures. Et c'est une fois à l'hôpital, après avoir reçu les premiers soins, qu'elle va livrer son récit de l'horreur. Le dimanche 16 octobre, elle et son mari doivent discuter divorce et argent. Mais la discussion tourne à l'embrouille, le ton monte, la dispute dégénère quand le sujet de la pension militaire de Kyung-han est abordé. Il dit qu'il préfère mourir que de partager l'argent de sa retraite. Il est en colère à l'idée de devoir céder à sa femme, mais aussi à ses enfants, même si l'aîné est majeur, une partie de sa pension. Kyung-han est tellement en colère que Sukan lui demande de partir. Elle sent qu'il est furieux et elle le connaît, l'animal, avec ses problèmes de colère. Tant pis, ils finiront la discussion plus tard, mais elle ne veut pas avoir à le gérer dans cet état. Sukan monte dans sa chambre, Kyung-han s'en va, puis il se ravise. Il fait demi-tour et il surprend sa femme dans sa chambre. Il n'en a pas fini avec elle. Il fait voler la porte. Sukan sursaute, mais elle n'a pas le temps de réagir. Kyung-han se jette sur elle et il l'attaque violemment. Il envoie les coups de poing dans tous les sens. Il l'atteint au visage. Ensuite, il l'attrape et il la jette au sol. Il la maîtrise et c'est là qu'il la ligote avec du scotch. Il lui attache les mains dans le dos. Il lui attache les cuisses et les chevilles ensemble et lui scotche les yeux et la bouche. Après l'avoir ligoté, bâillonné, il sort de la pièce. On l'apprendra après, mais c'est à ce moment qu'il entre dans sa voiture, dans le garage. Sukan en profite pour rappeler les secours, comme elle le peut, à l'aveugle, avec son Apple Watch. Et ça fonctionne. Elle raconte qu'elle entend le dispatcher parler et qu'elle essaie de communiquer, mais qu'avec sa bouche couverte de scotch, elle ne peut que crier. À ce moment-là, Kyung-han revient dans la pièce, il attrape Sukan par le bras et il la traîne comme un vulgaire sac à patates jusqu'au garage. Il remarque l'Apple Watch et avec sa formation de militaire, il se dit qu'il vaut mieux éviter de la garder. Alors il ne sait pas que l'Apple Watch est en appel avec le 911. Il se dit que ça pourra aider à les pister et donc il se saisit d'un marteau et il casse la montre alors qu'elle est toujours au poignet de Sukan. Et quand la montre est cassée et qu'elle tombe au sol, il frappe encore le poignet avec le marteau juste pour le plaisir. Il ignore que la montre est en communication avec les secours. Kyung-han force ensuite Sukan à monter dans son minivan. Elle est aveugle, muette, la moitié de son visage est couverte de scotch. Elle entend la voiture démarrer et elle panique totalement. Elle essaie d'ouvrir le coffre avec ses pieds, mais elle n'y parvient pas. Elle essaie pendant tout le trajet, mais malheureusement, elle ne trouve pas le moyen d'activer le mécanisme d'ouverture. Elle repense aux menaces de mort qu'elle a pu recevoir de Kyung-han. Elle ne l'aurait jamais pensé capable de faire ce genre de choses. Pourtant, elle est bien ligotée dans le coffre de sa voiture, en route vers elle ne sait pas où. Elle panique. Et elle le sait, cette fois-ci, il va la tuer. Après quelques dizaines de minutes de route, le minivan s'arrête. Elle entend la portière du conducteur s'ouvrir puis se refermer. Elle entend des pas qui se rapprochent du coffre, donc qui se rapprochent d'elle. Le coffre s'ouvre et à l'odeur, elle comprend qu'elle est dans une forêt. Ça sent les épines de pin, la mousse et l'humidité. Si c'est encore possible, la panique monte d'un niveau. Kyung-han la conduit jusqu'à un endroit isolé dans les bois. Il la traîne à nouveau par le bras et à quelques mètres de la voiture, il la lâche sur les feuilles mortes. Elle l'entend retourner à la voiture, ouvrir une porte, la refermer, puis se rapprocher d'elle à nouveau. Et ce qu'elle entend après la fait trembler de terreur. Elle entend Kyung-han creuser. Il semble creuser pendant une éternité. Elle le supplie, mais il n'écoute pas. Puis quand il est satisfait de son travail, il attrape Sukan. Soudain, elle ressent une douleur intense au niveau de sa poitrine. Il vient de la poignarder. Et ça recommence encore et encore. Et enfin, Kyung-han la jette au fond du trou. Il commence à la recouvrir de terre. Elle pleure, elle tente de l'implorer, mais il n'écoute toujours pas. Et elle va avoir la brillante idée de se tortiller la tête, de bouger son visage pour que la terre ne colle pas totalement autour de son nez et de sa bouche. Et ça fonctionne. Alors que la tombe se rebouche autour d'elle, elle parvient à garder comme une bulle d'air autour de son visage et elle peut continuer à respirer. Quand Kyung-han finit de reboucher autour d'elle son piège diabolique, il recouvre le tout d'un tronc d'arbre bien loin. Sukan est recouverte de quelques dizaines de kilos de terre et de bois. Elle entend Kyung-han au-dessus, à la surface, et là, patiemment, Courageusement, elle attend que la voie soit libre. Elle pense à ses enfants. Elle ne peut pas les abandonner. Elle va tout faire pour sortir de cette tombe. Kyungan finit par s'éloigner, pensant qu'elle va s'étouffer ou se vider de son sang et mourir. Mais bien qu'elle soit coincée sous le tronc d'arbre et sous de la terre, elle réussit à défaire le scotch de ses bras. Peut-être que l'humidité de la forêt aide, peut-être que la panique, la peur, l'adrénaline et surtout sa détermination lui donnent une force incroyable. Quoi qu'il en soit, ses bras sont libérés. Elle creuse alors jusqu'à la surface. Elle sort son visage de sous la terre et elle respire enfin. Elle retire le scotch de ses yeux. Il fait nuit. Elle a passé presque 10 heures dans ce trou. À quelques mètres de là, elle aperçoit le minivan de Kyungan. Il y a de la buée sur les fenêtres et une lumière à l'intérieur. L'angoisse la reprend de plus belle. Et s'il la voyait? Elle retire le scotch de ses chevilles et elle se met à courir dans la direction opposée. Elle court le plus vite possible, elle pleure à grosses larmes, elle voit de la lumière au loin à travers les arbres, une maison, elle est sauvée. Après une course d'une vingtaine de minutes dans la forêt, elle arrive enfin à la maison du 9900 de la route Stedman. Et la suite, on la connaît. Vers 19h30 le lendemain, la police reçoit un appel. Un véhicule suspect est stationné sur le sentier Chehalis sur la route Stedman. On n'est pas loin de là où a été retrouvé Sukan plus tôt la nuit précédente. Une unité est envoyée. Kyungan est appréhendé dans sa voiture. Pourquoi est-ce qu'il revient sur la scène du crime? Il est à la recherche de Sukan puisqu'il a remarqué la tombe vide au petit matin. Donc il la cherche depuis, mais en vain. Cheh! L'expression « un tueur revient toujours sur la scène de son crime » n'aura jamais eu autant de saveur. Après quelques heures en garde à vue, Kyungan est incarcéré à la prison du comté de Thurston le 18 octobre. Plus tard dans la journée, la police retrouve la tombe. L'endroit correspond à la description de Sukan, dans les bois, à l'ouest de la route Rainier et au sud de la route Stedman, dans une allée couverte de branches et d'arbres abattus. Au bord de la clairière, il y a un tas d'arbres, et sous les arbres, la tombe. Sukan a eu de la chance que son mari ait été négligent, ou peut-être flemmard, ou peut-être qu'il pensait l'avoir poignardé au niveau du cœur ou des poumons. La tombe, qui fait 1,80 m de long pour 90 cm de large, est profonde de seulement 50 cm. S'il avait pris le temps de bien faire les choses, Sukan n'aurait pas réussi à s'en sortir. À l'intérieur du trou, les forces de l'ordre retrouvent une bande de scotch similaire au scotch retrouvé dans la maison et sur Sukan. Sur le scotch, les cheveux correspondent aux siens. Et à côté de la tombe, on retrouve aussi un morceau de scotch avec des éclats de l'écran de l'Apple Watch. Che Kyungan est officiellement inculpé. Il est accusé de tentative de meurtre au premier degré, d'enlèvement au premier degré, d'agression au premier degré, de violence domestique et de harcèlement avec menace de mort. Le 19 octobre 2022, lors d'une audience préliminaire devant la Cour supérieure du comté de Thurston, l'avocat de Kyungan, Ahmed Jenkins, demande que sa caution soit fixée à 150 000 $. Mais Sukan, à travers une lettre lue à haute voix au tribunal par son avocat, plaide contre cette caution. Elle n'est pas présente parce qu'elle est encore en traitement intensif pour les dommages psychologiques qu'elle a subis. Mais elle demande à ce qu'aucune caution ne soit fixée pour Kyungan. L'avocat lit les mots suivants. J'ai vraiment peur pour ma vie, j'ai très peur de lui, il me tuera s'il est libéré. Et sa demande est entendue et acceptée. Kyungan reste détenu sans caution dans la prison du comté de Thurston. Quand le procès s'ouvre, Che Kyungan, 54 ans, plaide non coupable de toutes les accusations contre lui. Mais il change de tactique en cours de route. Sur les conseils de son avocat, il plaide finalement coupable de tentative de meurtre, mais au second degré, et de violence domestique, et ça lui permet un accord de plaidoyer avec le tribunal. « Oui, j'ai eu l'intention de causer la mort de ma femme, explique Kyungan, et j'ai bien failli le faire. Je l'ai kidnappé, je l'ai emmené dans les bois, je l'ai agressé, et je l'ai placé ligoté dans un trou et recouverte de terre. Si je pouvais revenir en arrière, je ne rentrerais pas dans la maison ce jour-là. Je ferai demi-tour et on n'en serait pas là. » Alors, à l'entente, c'est seulement à partir du moment où il entre dans la maison que tout va mal, tout le reste aurait été évité ou évitable. Il aurait surtout dû accepter que sa femme voulait divorcer. Il aurait surtout dû accepter de la laisser partir. Il s'excuse quand même d'avoir causé de la peine à tout le monde et il adresse quelques mots à ses enfants. « Je vous aime de tout mon cœur, vous représentez tout pour moi, vous êtes mon cadeau le plus précieux du ciel. » Alors, on n'arrache pas leur mère à des enfants qu'on aime, en plus en l'enterrant vivante. Le traumatisme de cette tentative de meurtre, il n'est pas seulement pour Sukan, mais aussi pour ses deux enfants. La nouvelle stratégie de défense pour Kyung-an va consister à aller puiser dans son passé, hein, le grand classique de « j'ai des traumatismes ». Son avocat, Maître Jenkins, évoque des problèmes de santé mentale dont souffrait son client. Il souffrirait en effet de symptômes de stress post-traumatique à la suite de ses années de service et de déploiement militaire, mais aussi à cause du divorce qu'il a rendu sans domicile fixe et l'a isolé de sa famille et de ses amis. Et avec ça, qu'est-ce qu'on essaie d'obtenir? Pas un verdict non coupable, faut pas abuser, on cherche une peine moins lourde, évidemment. Soo-kan, après avoir raconté son histoire aux membres du jury, exprime sa peur terrible de la récidive de son mari, un homme qu'elle décrit comme intelligent, très entraîné et avec un tempérament violent. Le 22 avril 2024, la Cour supérieure de Thurston rend son verdict. Choi Kyung-an est reconnu coupable de tentative de meurtre au deuxième degré et de violence domestique. Pendant la condamnation, la juge Marisu Wilson insiste pour une sentence la plus lourde possible. Elle dit du crime qu'il est horrible. Je suis sûre qu'il n'y a pas de mots pour décrire la souffrance physique, la peur et l'angoisse pendant 12 heures à penser que vous pourriez perdre la vie et que vous ne reverriez peut-être jamais vos enfants, dira la juge. Quelques jours plus tard, Kyung-an reçoit une sentence de 13 ans et 9 mois, suivie de 3 ans de liberté conditionnelle sous le contrôle de l'État de Washington. Il aura 67 ans au moment où il pourra être libéré. Alors c'est très rare que je traite ce genre d'affaires sur ma chaîne, mais de temps en temps ça fait du bien de parler d'une affaire qui se termine, j'ai pas envie de dire bien, mais qui se termine pas en meurtre, disons. Cette tentative déjouée et d'une manière en plus admirable nous rappelle que, bah, quand c'est pas ton heure, c'est pas ton heure. Ni adultère, ni dispute sur les finances ne justifie un acte d'une telle violence. Rien ne justifie la violence. Cette affaire me fait penser à celle de Babis Anagnostopoulos. Cette fois-ci, ça se passe en Grèce. Le 11 mai 2021, un pilote d'avion, Babis, 34 ans, appelle un soir les secours. Sa femme et lui viennent d'être victimes d'un cambriolage qui a très mal tourné. Le chien du couple est retrouvé pendu, le pilote est attaché dans la chambre à coucher, inconscient. Sa femme, Caroline Crouch, est retrouvée morte, elle a été étranglée. Et c'est grâce à l'Apple Watch de Caroline que l'enquête révèle l'énorme mensonge de son mari. La montre révèle en effet que son cœur s'est arrêté de battre bien avant l'heure donnée par son mari. Ce cambriolage mené par trois hommes armés est en fait inventé de toutes pièces. C'est en réalité lui qui étrangle et tue sa femme devant leur bébé, qui a seulement quelques mois. Merci la technologie d'aider dans la recherche de la vérité, même si beaucoup ne sont pas d'accord avec les caméras de surveillance qu'on trouve maintenant de plus en plus, les montres connectées et les téléphones portables qui littéralement nous pistent, nous traquent. Je trouve perso que ça a du bon pour la justice, pour les victimes ou potentielles victimes. On n'est pas tous du même avis, donc je te laisse mettre un commentaire pour me dire ce que tu en penses. Et en attendant de te lire, merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est tout pour moi. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.